Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici aujourd'hui. J'ai été horrifiée de voir que je devais prendre la parole tout de suite après David parce que c'est difficile de faire aussi bien que lui. Aujourd'hui, je vais parler des lecteurs de Thomas Dorsey McKee. Je vais vous offrir une histoire de cas sur une histoire de livre de 1845 à 1935. Je vais limiter mes remarques au sujet de ma méthodologie pour faire remarquer que l'approche suivie ici est tirée d'approches critiques littéraires, entre autres, tout en répondant à l'appel de Gerald Friesen pour un appel d'attention pour ce qu'il appelle les gens ordinaires du Canada.
And Edward James Mooney. From the point of view of Robert Darton's now.
Du point de vue de Robert Darton, un modèle d'analyse qui est tiré de théories matérialistes, culturelles et économiques, d'interprétation. J'ai noté Marginalia représenté dans les restes survivants de la Bibliothèque Mooney et j'ai également tenu compte des aspects physiques, des artefacts culturels.
Generations of the family, including the decoration of Irish-related books with emerald, green, orange and scarlet ribbons. In a sense, the following remarks initiate analysis of what is now.
Alors, les remarques suivantes entament une analyse d'une bibliothèque, de ce qui est maintenant une bibliothèque fantôme. En 2004, les restes du ménage Mooney au 16 rue Queen, au-dessus de la rue Prince William, à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, ont mené à l'acquisition de livres et de plusieurs cartons de livres. Beaucoup de ces livres ont été jetés, mais un chercheur de livres a endommagé beaucoup de livres également, en biffant des signatures et des inscriptions. Et certains de ces livres ont été jetés et perdus, et le chercheur de livres, également un collectionneur qui s'intéressait aux Irlandais, a endommagé de nombreux de ces livres. Sir John Barrington, Thomas Farnham, Henry Grattan, et y compris une première édition de 1857 de la collection de chansons d'Edward Ayers. Ce spécimen décoré de rubans émeraude et la plaque de livre de son petit-fils Edward Mooney. D'autres textes de la collection incluaient des livres, des manuels scolaires, etc. Au cours des dernières années, j'ai réussi à récupérer bon nombre de ces livres et M. Schutz m'a beaucoup aidé pour étudier et photographier d'autres volumes qui n'étaient pas liés à mes intérêts ou qui allaient au-delà de mes ressources. Les livres représentaient au moins 3 et probablement 4 générations de lecture irlando-canadienne, fournissant une base pour révéler une étude de cas historique. Alors, je vais discuter de la signification de ceci pour les lecteurs irlando-canadiens de la période 1850 à 1930 et pour imprimer une analyse culturelle de la culture du livre irlando-canadienne en général. Il y a peu d'informations au sujet des premières générations canadiennes de la famille Mooney, comme sa femme, Mary Doyle. Patrick Mooney était né dans le comté de Derry, en Irlande. Il était arrivé au Nouveau-Brunswick en avril 1862, à l'âge de 11 ans. Patrick Mooney, ou plutôt son grand-père, Thomas Mooney, est venu à Saint-Jean sur le navire Elizabeth, un navire de la Londonderry J.J. Cook Line. Il était accompagné de son fils Bernard, de sa belle-fille Sarah Crilly Mooney et de leurs trois fils Patrick James, Michael Francis et Edward. La famille finalement s'est installée au 710 Orange Street à Saint-John. Et l'Élisabeth a fait 8 voyages transportant des immigrants entre l'Irlande et Saint-John entre 1857 et 1863. Et en 1860, elle avait transporté 200 immigrants, même si on avait fait des traversées précédemment avec uniquement 19 immigrants. Thomas et Bernard Mooney étaient des travailleurs semi-qualifiés qui avaient travaillé dans le nord de l'Angleterre. Début des années 1970, Bernard a fondé la compagnie Bernard Mooney and Sons, entrepreneurs généraux. Bernard Mooney a également acheté un champ de, ou plutôt une entreprise de fabrication de briques à Fairville, au Nouveau-Brunswick, et il est devenu l'un des plus grands constructeurs de la ville. Une période dans l'histoire du Nouveau-Brunswick a été caractérisée par Scott aussi et d'autres à un moment de bigoterie intense, de conflits et d'extrémisme orange. Il est presque certain que Patrick Mooney a hérité au moins une partie de la bibliothèque des livres irlandais de son père ou de son grand-père, même si aucun n'a laissé leur signature dans les spécimens qui ont survécu. Les premiers livres de la collection sont Sir Jonah Barrington's, ou plutôt Rise and Fall of the Irish Nation de Sir Jonah Barrington's. Thomas Les Historical Sketches of O'Connell and His Friends de Thomas Darcy McKee, produit la même année à Boston. Le spécimen du livre Madden est intéressant parce qu'il comprend une signature de D, probablement Douglas. Le livre contient également un timbre de Hugh Lee Patterson Filling Chemical Works. Et la signature de Mooney fait qu'il est probable que la famille Mooney en faisait partie et avait passé du temps à Sunderland avant de quitter la Grande-Bretagne pour l'Amérique. Le livre est en mauvais état, il est taché par l'eau et le livre contient des signets associés au volume survivant de la famille pendant la période après leur arrivée à Saint-John. Grattan's et les discours, les longs discours de Grattan du début des années 1780 jusqu'à 1819 constituent une lecture intéressante. Une signature du 20e siècle d'Edward Mooney confirme que le livre a été préservé et utilisé pendant plus d'un demi-siècle. Avec une copie de Grattan de Madden, un autre livre de la collection qui a été apporté d'Angleterre par le père de Patrick, il y a un premier volume de Lives of Illustrious Irishmen, livre en 6 volumes qui comprend du matériel sur les légendes liées aux personnages irlandais anciens et qui se sont retrouvés par la suite dans les ouvrages de Irish Revival. Et la possibilité que l'utilisation des couleurs était accidentelle ou décorative ou saisonnière a été contredite par le fait que les livres irlandais de la bibliothèque ont été acquis avec le temps et divers tissus ont été utilisés pour les rubans verts, y compris un avec un vert d'Irlande du Nord, du blanc et des motifs blancs et noirs dans une copie très intéressante de la troisième édition de Historical Sketches of O'Connell and His Friends de Thomas Darcy McGee, publiée à Boston par Donahoe and Rowan en 1845. et par un autre ruban semblable, orange et vert, dans une copie de Catholic History de McGee's, reliée en tissu orange. Alors, la famille Tufts du Nouveau-Brunswick faisait partie de la migration des loyalistes de l'Empire uni et était le premier propriétaire du livre. Même si la date de publication prédate l'arrivée de la famille Mooney, les signatures Tufts confirment que les livres de Darcy McKee dans la collection, produits par Donahue Erwin de Boston, incluaient O'Connell and his friends. Du point de vue des études de McGee, les ballades Hayes et sont intéressantes parce que les 68 poèmes ont été reproduits encore plus que pour James Clarence Mangan et Thomas Moore. En fait, le livre est la collection la plus substantielle des vers de McGee à être publiée avant l'édition Lovell de Montréal des ballades canadiennes. Ce qui est intéressant du point de vue de la distribution victorienne, c'est que la copie spécimen de Sir Jonah Barrington, A Rise and Fall of the Irish Nation, a été émise par les Canadiens Denis et James Sadlier de New York Express.
He was athletic, played hockey and football, soccer, and was considered an excellent rower in a city where rowing was taken very seriously. Before World War I, Mooney was involved in the militia and received a commission as lieutenant in 1911. He served as a highly decorated machine gun officer in the 6th Canadian Mounted Rifles from the outbreak of the war, and later joined the 4th Battalion at Passchendaele and was badly wounded, afterwards returning to Halifax on sick leave, and later serving as a...
Il a travaillé à Saint-John et il a pris sa retraite et est devenu membre de l'administration de la ville. Il est un membre de l'association Canadian Cavalry Association et la Société historique du Nouveau-Brunswick. Il n'est pas surprenant d'apprendre que Édouard s'est procuré au-delà de la moitié des livres qui existaient de la collection Mooney. Il a préservé les livres irlandais qui venaient de la collection de son père, y compris le livre sur l'honorable Thomas Darcy McGee, qui avait été publié en 1868, et d'autres livres sur la politique et l'histoire irlandaise. D'ailleurs, dans une édition du livre de Mary Ann Sadler, c'est-à-dire les poèmes de Thomas Darcy McGee, on trouve la signature d'Edward. Mais à part ses poèmes et l'anthologie Hayes, la poésie ne fait pas vraiment grande partie des documents de Mooney. Mais il y a quand même d'autres preuves qu'Edward a relu les livres après sa petite enfance. Edward s'intéressait vivement à l'histoire militaire britannique. D'ailleurs, il a obtenu un exemplaire de l'histoire de l'Empire britannique, le livre qui était utilisé un peu partout au Canada pendant une trentaine d'années. Même si la valeur de ce document est discutable. Il a aussi obtenu un exemplaire du livre The Great Battles of the British Army, un document qui avait été publié en 1890. Il s'est aussi procuré un exemplaire de tous les discours de Sir James David Edgar, entre autres les Cavaliers et Cavaliers and Roundheads, ou Stories of the Great Civil War, qui ont été publiés en 1888. Ce document avait été publié par The Ballantine Press, à Édimbourg. Et même si la version canadienne est maintenant très rare, c'est un document, un livre qui avait été publié pendant une trentaine d'années, sinon plus. Ça montre un portrait de Cromwell. C'est un livre passionnant, avec toutes sortes d'anecdotes, ainsi que la vision canadienne de la culture britannique. Ça semble être un livre préféré d'Edward Mooney, qu'il a gardé jusqu'à sa vieillesse. Il est d'ailleurs possible qu'il l'ait amené avec lui en guerre à l'étranger. Il a même noté en particulier l'extrait sur l'exécution de Charles Ier. Ce n'est pas le seul livre qui peut être considéré comme un livre romantique et historique. On trouve aussi l'exemple de « With Wolf in Canada », un livre qui faisait partie de sa collection. On y trouve toutes sortes d'illustrations et une description détaillée de la campagne de Wolfe. Le point culminant, c'est la bataille des plaines d'Abraham, ainsi que la mort de Wolfe avant que le héros du roman retourne en Angleterre. Mooney a également lu Pitcairn Island, The Island, the People and the Pastor, dans une édition qui avait été publiée à Londres par la Société pour la promotion de connaissances chrétiennes. Plusieurs églises ont publié divers livres et il semble qu'il avait des goûts assez éclectiques. Il y avait beaucoup de fiction populaire dans la bibliothèque de Mooney, mais malheureusement, plusieurs ont été détruits. Mais il y a quand même trois romans irlandais, notamment Tim Doolan, The Irish Emigrant, publié en 1869, The Young Hussar, or Lady Iris's Adventure, de Thomas Fonnan, ou The Last Sentinel of Castle Hill. Tim Doolan et The Young Hussar sont très difficiles à trouver, mais les histoires de leur publication sont très distinctes. On trouve les chroniques d'une famille émigrante, famille qui a vécu beaucoup de discrimination aux États-Unis avant de venir au Canada. The Young Hussar a aussi ce ton anti-américain et donne un exemple ou raconte les expériences de l'auteur. Thomas Fonn était un ancien soldat canadien d'origine irlandaise catholique qui a émigré à Picton en Ontario après avoir servi à Malta et ailleurs. D'ailleurs, The Toronto Hunter Rose Press a publié The Life of a British Soldier, un livre qu'il a publié en 1879. Le livre inclut tout un extrait sur l'Irlande pendant la période de 1847 et parle beaucoup du sentiment catholique de l'armée pendant cette période. Le livre a été vendu un peu partout. D'ailleurs, 29 000 exemplaires ont été vendus dans le roman. Le héros irlandais est sauvé d'une foule américaine en faisant appel au patriotisme irlandais. Fonn a fait le contraste entre la civilisation britannique en Irlande et au Canada avec la culture américaine. Le troisième roman lié à l'Irlande qui a survécu, c'est « The Last Sentinel » de J.A. O'Reilly, publié à Londres par Elliot Stock en 1916, un livre que Edward Mooney a sans doute acheté pendant qu'il était à l'étranger. Dans le roman, il y a une description détaillée des Irlandais de Terre-Neuve et une élection à Terre-Neuve où on mettait l'accent sur l'identité britannique et le nationalisme culturel irlandais. Il s'agit d'une œuvre historique plutôt que littéraire et on ne voit pas d'intérêt littéraire particulier dans les extraits. Je voulais maintenant dire quelques mots à propos de l'économie et des politiques de la bibliothèque Monet. L'expérience militaire et les intérêts militaires de Edward Monet sont reflétés dans plusieurs volumes qu'on trouve dans ces associations. On trouve, par exemple, Troublous Times in Canada, A History of the Fenian Raids of 1866 and 1870, publié à Toronto en 1910. Il a sans doute lu et écrit des notes sur le livre de Charles Sarolea qui s'appelle The Anglo-German Problem. Dans sa bibliothèque, on a aussi trouvé un exemplaire du livre de Noah Brooks intitulé Short Studies in Party Politics. Edward s'intéressait vivement à l'économie. Il était démocrate. Il a lu beaucoup de livres sur le sujet. Par exemple, une série de conférences qui ont été données un peu partout aux États-Unis en 1923. Edward a lu tous ces documents très attentivement. D'ailleurs, dans certains livres, on trouve des petites notes, par exemple, à lire la page 167. Alors, je l'ai faite. On y trouve ce qui suit. Le changement a été graduel pour ce qui est de passer à un monde militaire, à un monde industriel. Il fallait se débarrasser des anciennes lois pour en introduire des nouvelles. Certaines des choses faites sont considérées comme étant des mouvements culturels, mais d'autres personnes les considèrent des mouvements économiques. Dans le livre de Wright intitulé « The Battles of Labor », on trouve un reflet presque parfait des idées de Edward Monet. Dans ce livre, on voit la combinaison de nationalisme impérial canadien et les points de vue socialistes fabiens. Je suis contente de vous dire qu'il y a un autre livre d'importance pour ce qui est de la distribution des documents britanniques, notamment Fabian Essays on Socialism, c'est-à-dire une collection de textes édités par George Bernard Shaw. On y trouve toutes sortes de récits par Sidney Webb, William Clark, Sidney Oliver, Graham Wallace, entre autres. Fabian Essays n'a pas été grandement distribué, mais demeure quand même d'une grande importance. On y trouve la promotion de visions antinationaux. Dans le livre, on voit aussi que la famille voulait s'identifier à Darcy McGee. Et on trouve aussi des indices que son assassinat avait été bien planifié. Même si ces documents pourraient bien faire partie d'une bibliothèque républicaine, on a quand même publié ces documents pour que la famille puisse l'adopter. Même si les Mooney sont devenus impérialistes, ils sont quand même demeurés catholiques. Ils servent de bon exemple de ce que Horowitz, Taylor et autres ont considéré des conservateurs rouges. La préservation des livres et l'intérêt soutenu d'Edward Monet sont exemplaires et montrent que la procédure d'assimilation n'a pas complètement effacé son identité irlandaise. Merci.